Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Bismart, 19h30, 20h.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart sur Sud Radio. Aujourd'hui, je vous propose un peu d'évasion. En cette période compliquée pour le tourisme, nous serons avec le patron d'Evaneos. Je suis maintenant en compagnie d'Éric Labonnardière. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes CEO et cofondateur d'Evaneos. C'est une plateforme touristique qui met en relation les voyageurs avec les agences locales. Vous faites partie du Next 40. Évidemment, vous prenez, comme tous les acteurs du tourisme, cette vague de plein fouet. Où en est votre entreprise aujourd'hui?
Notre entreprise, elle attend la reprise. On a travaillé ces 6 derniers mois justement pour se mettre en position que cette crise dure longtemps. Et ça s'est vérifié. Donc, à la fois d'un point de vue financier avec nos investisseurs, on a évidemment coupé les coûts, notamment marketing, et surtout on prépare la suite en travaillant notamment sur notre technologie, sur notre SaaS qui est un logiciel qu'on a mis à disposition de nos agences locales depuis maintenant plusieurs années. On travaille sur l'offre aussi pour les voyageurs qui seront présents après cette période de Covid, parce qu'ils auront des attentes différentes, parce que on veut ressortir plus fort, et c'est tout un tas de chantiers. On s'est pas arrêté de travailler, mais en tous les cas les voyageurs sont aujourd'hui en attente. Il y a un frein psychologique à se mettre à préparer des voyages. On sait très bien que les vacances de Noël sont vraiment en suspens aujourd'hui.
Oui, mais parce que personne n'a de visibilité aujourd'hui. Enfin, on en revient toujours au même. C'est-à-dire que tant qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas se projeter, donc on ne peut pas faire de projet et on ne peut pas se dire demain je pars à tel endroit à l'autre bout du monde si je ne suis pas sûr qu'au final j'ai le droit, je suis en capacité d'y aller.
Exactement, c'est bien le problème. Et avant le confinement, c'était possible d'aller dans des destinations. Moi-même, je suis parti en Égypte à la Toussaint. Mmh. Mais c'est un peu un parcours du combattant administratif. Il faut faire les tests, il faut qu'ils soient faits avant 72 heures avant le départ, qu'il y ait les résultats. Donc, ça, c'était avant. Alors là, on a des perspectives qui sont un peu meilleures parce qu'il y aura des tests à l'aéroport avec des résultats beaucoup plus rapides. Mais la réouverture va dépendre beaucoup des destinations aussi qui ont leurs contraintes sanitaires, qui vont accepter telle ou telle nationalité de voyageurs. Donc cette visibilité est absolument quasiment nulle aujourd'hui. En revanche, le vaccin est une bonne nouvelle parce que ce vaccin va permettre quand même de débloquer psychologiquement, encore une fois, les voyageurs, les destinations pour réouvrir leurs frontières, et donne un vent d'espoir quand même dans le secteur, parce que c'est toute une chaîne du tourisme aujourd'hui qui est impactée. Évidemment, nous, opérateurs en France, mais derrière nos agences locales, derrière les agences locales, les hôtels, les guides, les restaurants, les transporteurs. Voilà, c'est toute une chaîne aujourd'hui qui est vraiment en attente de ce rebond.
Ouais, c'est tout l'écosystème. Et vous travaillez effectivement, c'est une de vos particularités, avec des agences locales dans chaque destination où vous êtes présent. Comment elles vont aujourd'hui, ces agences locales? Est-ce que vous risquez pas d'en perdre aussi une partie et de devoir refaire un certain travail de sourcing derrière?
Ouais, alors on a un réseau de 2000 agences locales, donc qui est extrêmement extrêmement large, dans 160 destinations. Donc on a passé beaucoup de temps avec elles ces derniers mois. On a eu la chance de voir, quelque part la surprise aussi, qu'elles sont très résilientes. Moi, je suis assez impressionné parce que c'est vraiment des petits entrepreneurs locaux. C'est des sociétés qui ont entre 5 et 10 salariés en moyenne. Ça peut être plus gros. Mais qui, en tout cas, sont, voilà, ont, quelque part, je me suis rendu compte qu'elles ont l'habitude finalement de gérer des crises, parce qu'il y a cette crise sanitaire aujourd'hui. Mais dans beaucoup de destinations, il y a eu des crises géopolitiques par le passé, qui ont conduit à un tourisme qui s'est arrêté parfois pendant plusieurs mois aussi. Mm-hmm. Finalement, elles ont l'habitude de ça. Elles sont capables de couper leurs coûts assez vite. On a eu la chance en France, notamment, de bénéficier d'une ordonnance aussi qui permet aux agences locales, à nous opérateurs, de reporter les voyages et de pas avoir à les annuler ou à les rembourser tout de suite. Donc il y a beaucoup de dossiers comme ça qui sont en attente, et des voyageurs qui ont aucun espoir, c'est de repartir l'année prochaine. Donc ces agences locales,
par exemple, là, vous avez combien de voyages en suspens?
Ah, c'est des dizaines de milliers.
Ah ouais.
C'est en fait, comme la crise a démarré en février-mars, tous les voyages de l'été se sont annulés. C'était la période la plus importante pour nous dans l'année. Donc voilà, ça représente beaucoup de monde et donc beaucoup de travail de notre côté pour faire patienter ces voyageurs, pour construire avec eux le voyage d'après. Pour
ils le comprennent, ça, les consommateurs derrière, va falloir attendre, et que oui, vous allez partir, mais enfin bon, c'est pas trop bien quand, mais bon, on vous rembourse pas quand même parce que oui, vous allez partir, même si on peut pas vous donner de date.
Alors, une très grande majorité le comprend.
Ouais.
En revanche, faut l'expliquer. Faut expliquer qu'il y a des emplois qui dépendent de ça. Il y a des sociétés qui doivent survivre grâce à ça, sur place, à destination, des destinations dans lesquelles parfois le PIB, le tourisme dans le PIB représente 40-50%, donc c'est énorme. Donc, quelque part, il y a une solidarité assez forte qui s'est jouée, moi j'ai trouvé, les voyageurs ont compris. Alors ces vouchers, ce qu'on appelle ces avoirs, ont une date de fin. Donc à un moment donné, si le voyage ne peut pas se faire, ils seront remboursés. Mais en attendant, ils jouent le jeu et on est très contents de ça.
Vous parliez d'emploi, justement, vous avez annoncé un PSE. Combien d'effectifs est-ce que ça concerne?
ça représente 50 personnes. Ouais. La décision en fait a été liée au fait qu'on a vu que la crise allait durer, que le rebond sera progressif. Hein, on s'attend pas à un rebond d'un coup, sinon on n'aurait pas pris cette décision. Ça va se jouer de manière très linéaire, destination par destination. Et nous aussi, on doit penser à notre survie financière, à équilibrer nos coûts et nos revenus à horizon d'un an. Et on sait que l'année prochaine, en 2021, le chiffre d'affaires sera plusieurs dizaines de pourcents en dessous de ce qui était l'année dernière. Donc voilà, on se prépare à ça. Malheureusement, on avait mis des années à construire une équipe de passionnés, ultra talentueuses. Et malheureusement, certains doivent partir maintenant.
Vous êtes pourtant réputé pour avoir une assise financière assez forte. Vous avez levé, je crois, 90 milliards, ouais. Hein, c'est ça, depuis millions. Ouais, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ce serait bien, mais on en parlait avant. En Europe, c'est pas encore le cas de lever des milliards à ce point. 90 millions, c'est déjà énorme depuis votre création. Ça suffit pas quand même à un moment.
Ça suffit pas. Alors, ça suffirait aujourd'hui pour opérer les prochaines semaines et mois, si jamais ça rebondissait pas. Mais nous, on préfère se projeter à long terme, prendre aucun risque sur la viabilité financière de l'entreprise. Ouais. Et une fois que cette crise est terminée, qu'on ait encore les moyens d'investir et de se développer et de repartir sur de la croissance. Donc, c'est ça qu'on a anticipé avec ce plan, avec les réductions de coûts qu'on opère. Je pense que c'est une décision qui est sage et qui est comprise. On a fait depuis le début de la crise entre -90, -95% de chiffre d'affaires chaque mois depuis 6 mois.
Donc c'est
majeur. Et on est obligé malheureusement de prendre des décisions aussi qui sont majeures.
Est-ce que cette crise, quelque part, valide quand même vos choix stratégiques, ou est-ce que vous dites peut-être qu'à un moment il aurait fallu qu'on se recentre plus sur le local, la France?
Alors, c'est une bonne question. Moi, je suis assez persuadé que à la sortie de la crise, on voit tellement de voyageurs aujourd'hui qui nous écrivent, qui nous appellent en disant « moi, je trépigne de partir à l'autre bout du monde, pas que en Europe hein. ». Le voyage en Europe se développe clairement et on se positionne dessus de plus en plus. Mais demain, les voyageurs voudront repartir, aller à la découverte d'horizons qu'ils connaissent pas, d'aller dans des destinations exotiques, découvrir de manière un petit peu différente, je pense. Peut-être un peu moins souvent aussi. Les gens partiront probablement un peu moins souvent, mais plus longtemps, mieux aussi. Ils sont en quête de sens, en quête d'exploration, en quête de curiosité, de découverte locale. Et je pense que de ce point de vue-là, Evaneos est très bien positionné, parce que depuis le début, notre positionnement, c'est d'offrir du voyage hors des sentiers battus, grâce à l'expertise locale, en dehors des grands groupes, donc c'est plutôt du voyage sur mesure, individuel, et en dehors des lieux de tourisme de masse, qui vont quand même souffrir, parce que les gens voudront éviter les foules. Donc je suis assez optimiste sur notre futur proche.
Vous avez justement, je crois, sondé un peu vos voyageurs. Vous aviez fait une étude là récemment pour justement sonder les attentes de vos voyageurs. Qu'est-ce qui ressort majoritairement? C'est cette envie de plus proche dont vous parliez, peut-être de voyager moins de masse, mais ce qui était déjà votre positionnement, ouais, finalement? Alors, c'est l'écologie, parce qu'on en parle beaucoup.
Oui, alors ils sont extrêmement sensibles. C'est un point qui ressort, et c'était déjà présent avant, mais c'est accéléré par cette crise. C'est le besoin de comprendre son impact, le besoin de comprendre à qui on achète, le besoin de comprendre si mon voyage fait du sens par rapport à l'environnement, par rapport au social aussi, sur place. Donc, on s'est aperçu depuis le début que, en fait, quand 100 euros sont dépensés par un voyageur pour partir dans une destination, bien souvent, il y en a 70 qui repartent de la destination, et l'économie locale en bénéficie assez peu.
Donc, voilà, comment ça se fait, ça?
Bah, parce que beaucoup d'hôtels appartiennent à des chaînes étrangères, parce que sur place, on consomme des produits qui ne sont pas forcément fabriqués sur place, parce qu'on fait appel à de la main-d'œuvre étrangère. Enfin, voilà, il y a énormément de raisons qui font qu'un pays ne bénéficie pas à plein du tourisme. Et on s'est fixé vraiment comme cette mission d'aider des entreprises locales qui utilisent des prestataires locaux, et que les retombées économiques soient fortes pour les destinations. Donc on travaille de plus en plus vers ça, et les voyageurs, ils sont de plus en plus sensibles. Donc on est en train d'appuyer vraiment sur l'impact du tourisme, à la fois économique, social, environnemental, pour les destinations.
Mais ça veut dire aussi probablement une augmentation des prix, parce que si je suis la logique, ça veut dire peut-être pourquoi pas compenser mon empreinte carbone quand je vais dans un pays lointain, ça veut dire... Voilà, avoir des hôtels qui sont pas forcément low cost, mais aller dans des trucs plus authentiques, écologes et tout ça. Et on sait que ça coûte cher. Le consommateur, est-ce qu'il est prêt à ça, en fait?
Je pense qu'il est prêt à ça. La compensation carbone est un bon sujet, par exemple. C'est la seule chose qu'on puisse faire pour compenser les émissions des vols qu'on prend. Alors, il y aura des évolutions technologiques dans les dizaines d'années qui viennent, mais pour l'instant, c'est une des solutions qu'on a trouvées et qu'on va opérer chez Evaneos. Sur la qualité des prestations sur place, c'est pas forcément parce que c'est plus responsable, parce que c'est plus local, que c'est plus cher. Et c'est vraiment ça qu'on fait avec Evaneos, c'est justement de demander à nos agences locales d'aller sourcer, d'aller faire des repérages sur place, sur des offres qui soient plus responsables, qui permettent de vivre des expériences qui soient très fortes, mais pas forcément plus chères.
Éric Labonnardière, CEO et cofondateur d'Evaneos, était l'invité de Bismart sur Sud Radio. Très bon week-end à tous.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Bismart, 19h30, 20h.